Bienvenue à tous pour le premier podcast d'HEC Débat. Notre invité aujourd'hui, Guillaume Autier, est un homme de 43 ans, au parcours fulgurant entre public et privé. Des débuts retentissants d'abord. Polytechnique, ENSAE, l'ENA, votre pédigré impressionne, même ici. Vous commencez par mener la carrière standard d'un cacique des grandes écoles. Votre expertise de statisticien et d'économiste vous met directement dans l'ombre des puissants. Vous avez travaillé comme conseiller technique dans plusieurs ministères. À Bercy, vous vous êtes occupé de la supervision des marchés financiers, puis vous avez conseillé Éric Woerth au ministère du Travail. Après cela, vous revenez à vos premiers amours, mais dans le privé. Chez BNP Paribas, d'abord, où vous avez dirigé le département Debt Capital Markets. Vous y levez des fonds pour AXA, Humanis, Massif, CNP. Vous commencez à vous faire un nom dans le secteur de l'assurance. Puis, il y a 5 ans, vous rejoignez Meilleur Taux, courtier en assurance dont vous avez pris la tête en 2020, en pleine crise du Covid. Alors avec autant d'expérience, que pouvez-vous nous dire ? Ensemble, nous allons parler de fintech, d'innovation, de finance, mais également des conseils que vous pourrez donner à de jeunes futurs diplômés qui pourraient avoir envie de faire comme vous. Guillaume Autier, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Guillaume Autier, merci beaucoup d'avoir accepté de venir discuter avec nous.
Bonjour Anne.
Vous avez fait, on va commencer du coup les questions tout de suite, vous avez fait de longues études et avez étudié dans les plus grandes écoles françaises, Polytechnique, l'ENSAE et puis l'ENA. Malgré ce parcours brillant, vous avez toutefois un regard assez critique sur votre formation académique. Et quel problème, selon vous, pose le système d'études français ?
Alors, j'ai pas forcément un regard critique. Je pense que parfois on est trop critique sur le système français. Je pense qu'au contraire, on doit plutôt être fier de nos grandes écoles et puis on doit plutôt considérer que c'est un atout. Et donc, si j'ai parfois en effet un regard critique, c'est uniquement à titre personnel. Parce que voilà, je pense que c'est très facile de dire les gens qui sont issus de ces écoles, de les mettre dans une case. Moi, les gens que j'ai rencontrés dans toutes ces écoles sont des gens en fait d'une grande variété, à la fois d'idées, de secteurs professionnels. Aujourd'hui, on en a qui font tout un tas de choses. On a dans ma promo de il y a des artistes, il y a évidemment des gens qui sont dans le secteur privé, dans le secteur public, il y en a qui sont en France, qui sont à l'étranger, dans tous les secteurs possibles. Donc, on a des gens qui sont beaucoup plus variés qu'on ne le dit. Non, je dis moi parfois qu'à titre personnel, je considère que j'ai fait un peu trop d'études. Voilà, je le dis, je pense que j'ai fait après le bac. On va dire au total cumulé 9 ans d'études, c'est trop, il ne faut pas faire 9 ans d'études. Alors évidemment, entrecoupé de stages avec quand même des connexions assez fortes avec le monde professionnel, il y a des choses assez appliquées, mais au total, il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Et si je devais donner un conseil, c'est d'en faire plutôt moins. Alors après, il faut faire des études solides, vraiment dans la vie. C'est pas vrai qu'on s'en sort mieux en faisant pas d'études, ça c'est totalement faux. Il faut faire des études, il faut faire des études solides, mais le bon compromis, c'est probablement, on va dire, entre 5 peut-être 6 ans d'études et avec voilà, une vision soit de l'entreprise, soit du monde professionnel, sachant que quand on fait des stages, quand on fait peut-être de l'alternance, quand on va à l'étranger, je pense qu'il faut aller vraiment vers quelque chose qui vous plaît à date et pas se dire est-ce que ça me servira dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. De toute façon, les parcours changent, les carrières évoluent et donc faire quelque chose qui vous est utile tout de suite, c'est déjà très très bien. Donc, et alors du coup, pour répondre directement à votre question sur les systèmes, sur le système en tant que tel, moi je pense que, donc de nouveau, il faut d'abord en être plus fier qu'on est, on est trop critique. C'est quand même un système qui forme de façon solide sur à la fois des soft skills et des hard skills. Je pense qu'on a une bonne école, enfin, historiquement en France on avait une bonne école dans mon domaine, qui sont plutôt les maths, la data. Voilà, c'est quand même un bel actif de la France. Alors après, c'est vrai que dans le système français, on parle en fait assez peu d'international. Si je devais donner un seul manque qui me semble assez criant dans à peu près toutes les écoles, c'est peut-être pas le cas à HEC, c'est peut-être un peu l'exception, mais dans les 3 écoles que j'ai faites, on m'a quasiment jamais parlé de la façon dont un Américain, de la façon dont un Asiatique pouvait voir les sujets dont on nous parlait. Et en fait, bien plus tard, quand j'ai fait d'autres formations encore, mais on va dire plus des MOOC, des cours en ligne, etc., sur des plateformes comme Coursera, on voit que quand un Américain parle de data, quand il parle de machine learning, il explique les choses d'une façon très différente d'un Français, en parlant tout de suite, par exemple, d'un exemple. Il commence tout de suite par un exemple, il commence tout de suite par illustrer. Et donc, je trouve que parfois, on manque dans le système français un peu de cette ouverture d'esprit. Alors, ça vient de loin. Peut-être qu'on a un peu ce sentiment qu'il y a qu'en France, on sait faire les choses tout mieux que tout le monde. Je trouve que, vous voyez, c'est un truc qu'on voit dans les études, mais qui se revoit, qui se voit vraiment beaucoup après. Vous voyez, en ce moment, on est dans une campagne électorale. Et sans me prononcer du tout sur tous les candidats, je vous dis juste, si vous écoutez, il n'y en a pas un seul, mais pas un seul, qui sur aucun sujet vous dit « regardez comment font les étrangers ». Et alors, quand ils le font, parfois, ils prennent un exemple allemand. Mais c'est très rare qu'on prenne un exemple d'une géographie éloignée. C'est très rare qu'on se compare aux États-Unis, au Canada. Donc, cette dimension internationale, cette vision vraiment globale des sujets, elle est vraiment trop peu présente dans le système français.
D'accord, merci beaucoup. C'est une critique qu'on peut effectivement faire au système français, en tout cas qui est faite. Mais merci beaucoup pour cette réponse. Vous êtes diplômé de l'ENA, donc école très française s'il en est, et vous avez commencé par travailler dans la fonction publique, notamment au Trésor et à Bercy, avant d'entrer à BNP Paribas, donc dans la banque. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours et les choix qui ont motivé cette entrée d'abord dans le public et après ce tour vers le privé, ce retour au privé?
Je crois qu'on fait toujours les choix les plus importants de sa vie pour des raisons irrationnelles. Je pense que les petits choix, on les fait pour des raisons rationnelles, et les grands choix, on les fait pour des raisons irrationnelles. Et les raisons irrationnelles, c'est l'amour-propre, c'est une vision de certaines valeurs, peut-être un peu le regard des autres. Et donc, dans mes choix, il y a un peu de ça. Dans le fait de choisir la fonction publique, de démarrer, il y a probablement un peu les mythes familiaux. Moi, dans ma famille, on vouait un culte à certaines figures, Giscard d'Estaing, ce genre de grand commis de l'État. Et donc, évidemment, ça m'a marqué. Et évidemment, il y a une partie des choix que j'ai fait en début de carrière qui est liée à ça. Ensuite, bien sûr, on est plus libre. Ensuite, on fait des choix qui tiennent d'abord à vous. Mais je crois que les premiers choix, on les fait aussi en raison d'un moule peut-être familial, social. Après, quand même, si on essaye de rationaliser dans le système français encore aujourd'hui, il est clair que quand on débute, quand on a moins de 30 ans, on a un niveau de responsabilité, un niveau de délégation, un impact qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir dans le privé, mais quel que soit le poste dans lequel on est, l'entreprise dans laquelle on est, et puis bien sûr, même si on crée sa boîte, alors il y a évidemment comme toujours des exceptions, il y a des gens qui arrivent à créer des très grosses boîtes avant 30 ans, mais ça fait quand même très 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 peu de gens. Mais globalement, quand vous êtes haut fonctionnaire en France, que vous sortez de l'ENA, vous avez tout de suite des responsabilités très très larges. Alors, je le dis, c'est factuel, je ne dis pas que c'est bien. Mais je dis juste que c'est exactement ce qui se passe. Moi, quand je suis sorti au Trésor, je m'occupais de toute la réglementation internationale des assurances. Et en fait, tout est international, tout est européen dans ce domaine. Il y a quasiment aucune norme française. Les produits, on va dire, sont français, mais le cadre prudentiel, c'est-à-dire les fonds propres, les provisions, tout ça, qui a des impacts absolument colossaux sur tout le fonctionnement de ce marché, ça se décide à Bruxelles, pour faire simple. Et ben moi, je négociais à Bruxelles pour le compte de la France. Donc, ça veut dire que j'avais évidemment un impact énorme sur un secteur économique très important en France. Et en France, on est un gros pays d'assurance. On a des vrais acteurs globaux. On a AXA, on a Lascor, on a CNP, qui sont des vrais acteurs très internationaux dans ce secteur. Et donc, avoir un impact sur ce secteur, c'est avoir un impact très important sur un pan vraiment essentiel de l'économie française. Et je dois dire franchement, alors j'étais quand même formé à ce sujet, c'était quand même mon domaine de compétences, j'étais actuaire, etc. Mais la vérité, c'est que j'y connaissais quand même pas grand-chose. Et donc, le système français permet ça. Alors, quand on est de ce côté-là, quand on est en responsabilité, bah c'est super parce que du coup, on voit des interlocuteurs de très, très haut niveau. Moi, j'ai échangé beaucoup avec les compagnies d'assurance et je parlais toujours aux patrons directement. Donc, j'avais vraiment des contacts avec les patrons ou alors vraiment des gens très, très seniors dans les organisations et qui ont bien compris que bah, il faut qu'ils vous alimentent parce que sinon vraiment, vous avez aucune info, quoi. Et pareil, à Bruxelles, les gens en face des autres pays étaient en général beaucoup plus âgés, beaucoup plus seniors que moi. Et donc, dans le public, on a cette chance, et c'est encore le cas. Alors, c'est évidemment en train de changer un petit peu. Il y a des réformes pour réduire un peu l'accès direct à telle ou telle fonction en sortie d'ENA. Mais globalement, ça reste quand même vraiment, vraiment le cas. Et ensuite, après, on va dire 6 ans dans la fonction publique, j'ai fait donc 3 ans à Bercy, puis 3 ans comme conseiller de ministre. J'ai travaillé vraiment tout près des décideurs politiques. J'ai travaillé pour plusieurs ministres, pour Xavier Bertrand, pour Éric Woerth notamment. Donc ça, c'est pareil, c'est une expérience où enfin, c'est totalement égal à la caricature qu'on en a, c'est-à-dire des jeunes gens, conseillers qui travaillent beaucoup, mais qui sont un peu coupés des réalités, qui restent dans leur bureau et qui font des fiches pour le ministre. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça marche en pratique. Et après, il faut savoir se rendre compte que ce n'est pas la vraie vie et savoir quitter ça. Et pourtant, c'est difficile parce que c'est très grisant. Vraiment, on voit, quand on est conseiller d'un ministre, en plus, moi, j'avais la chance de m'occuper de réformes très importantes, la réforme des retraites de Sarkozy, celle qui a augmenté l'âge de la retraite, qui a réduit l'écart entre les régimes publics et privés. Enfin, voilà, on se dit, il faut que ça dure tout le temps. Et pourtant, il faut se dire que ça ne durera pas tout le temps, et donc, faut partir. Et là, alors, je suis parti dans une grande banque, BNP Paribas. Ce n'est pas forcément un choix, je dirais, incroyablement ébouriffant. C'est un choix assez classique. Beaucoup de hauts fonctionnaires font soit des allées simples, soit des allers-retours vers les grandes banques. Et comme vous savez, il y a dans le management de ces banques beaucoup de hauts fonctionnaires. D'ailleurs, les anciens patrons, pardon, les patrons actuels de Société Générale et une grande partie de leurs gardes rapprochés sont des fonctionnaires. BNP Paribas, c'est pareil. Donc, c'est des mondes quand même assez proches. Le vrai changement, il a été un peu plus tard, le vrai choix. Premièrement, de partir à l'étranger. Alors, je pense que ça semble probablement très, très naturel des étudiants d'HEC. Dans le monde plutôt, on va dire, des sciences, polytechniques, etc., c'est moins naturel. Et l'ENA, c'est carrément pas naturel du tout. Mais moi, c'est le choix que j'ai fait. Je suis parti à Londres pendant 3 ans. Et là, enfin, je veux dire, c'est impensif, c'est évident, mais il faut le faire. Il faut passer de 3 ans à l'étranger. Même Londres, ça paraît la grande banlieue de Paris, c'est à 2 heures de train. Eh bien, Londres, on voit des gens qu'on ne voit pas du tout à Paris. On voit des cultures qu'on ne voit pas du tout. Par exemple, je ne veux pas être dans les clichés, mais c'est juste factuel. On fréquente, par exemple, toute la communauté indienne. À Londres. Il n'y a pas de communauté, pour ainsi dire, indienne à Paris. Ben c'est une culture très différente qu'on ne rencontre pas du tout avec voilà, certains comportements. Voilà. Et puis, bien sûr, les Britanniques eux-mêmes. Mais en fait, les Britanniques, ils sont très peu présents à Londres. Londres n'est pas une ville britannique. Londres, c'est une ville totalement cosmopolite. Et donc, ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et puis ensuite, j'ai choisi vraiment, et là, c'est un choix, de partir dans une petite boîte, donc la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, Meilleur Taux. Et là, le choix, il est très simple. C'est que quand vous êtes dans une grande banque, et même si on est dans le système français, grandes écoles, etc., vous apercevez assez vite qu'il y a ceux qui sont programmés dès le début pour être comex de la banque ou patron de la banque. Et je vous dis clairement, moi, je n'en faisais pas partie. Et pour différentes raisons qui tiennent peut-être à moi, qui tiennent voilà, à différentes choses. Et le système, vous le dit jamais, ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui vous dit, tu sais, tu ne seras jamais à tel ou tel poste. Il faut que vous le compreniez parce que les messages qu'on vous envoie sont très cryptés. Et moi, je me disais que malgré, on va dire, l'impact et l'importance d'une banque comme BNP Paribas, moi-même, dans cette structure-là, j'avais pas d'impact. J'avais beaucoup, beaucoup moins les leviers chez BNP Paribas qu'avant dans le public. Vous voyez, par exemple, je m'occupais des missions de dette. J'étais sur les dettes, les marchés structurés de dette pour justement les compagnies d'assurance. Et je me disais que dans ce marché, évidemment, il fallait complètement transformer la façon dont ce métier fonctionnait. Il fallait tout digitaliser, mettre sur des plateformes. Et d'ailleurs, j'étais allé voir Jean-Laurent Bonnafé, parce que je le connaissais, j'avais travaillé pour lui à Paris. Et il m'a dit, oui, c'est bien sûr exactement ça qu'il faut faire, tout à fait. Ben, lui, patron de BNP Paribas, il était enfin, néanmoins pas en mesure de mettre ça en œuvre parce qu'il y avait tellement de leviers, tellement de conservatisme, tellement d'aversion au changement, qu'en réalité, c'est très difficile de changer ça dans un organisme aussi gros qu'une grande banque européenne. Et moi, qui étais, on va dire, un soldat, un fantassin dans cette équipe, même si je me disais que c'était ça qu'il fallait faire, j'avais pas du tout les leviers de faire ce changement. Et donc, je me disais, j'ai pas d'impact. Et quand même, au bout d'un moment dans la vie, on va avoir quand même de l'impact. Et donc, je me suis dit, là, j'ai fait un petit cahier des charges. Je me suis dit, quelles sont les entreprises qui ont, alors, à la fois une capacité à être très mobile, parce qu'elles ont la bonne taille pour ça, qui ont quand même déjà une certaine taille, parce que je me sentais pas, j'avais pas loin de 40 ans à l'époque, je me sentais pas de redémarrer une boîte à zéro. C'était pas le moment. Et puis, troisièmement, qui sont quand même dans un secteur dans lequel je pourrais amener des choses. Et à l'intersection de ça, il y avait deux, trois entreprises dont Meilleur Taux faisait partie. Et là, c'est très simple, j'y suis allé au culot. Donc là, je me suis dit, je vais appeler le patron et je vais lui dire, j'ai envie de travailler pour lui. Je vois d'ailleurs beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent me voir, parce que, donc, du coup, j'ai pris sa place quelques années après, mais qui me disent, je voudrais parler à ton fonds d'investissement parce que je pense que le fonds va peut-être me donner des contacts pour aller dans des boîtes ensuite. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Dans le monde du private equity, en fait, probablement qu'il y a un système qui consiste à passer par les investisseurs. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai directement appelé le patron personnel de la boîte et on s'est tout de suite très bien entendu. Donc, ce patron s'appelait Hervé Hatt. Il est encore à notre board aujourd'hui, il est administrateur, mais il est non-exec puisqu'il m'a passé le témoin 2, 3 ans après. Et là, chez Meilleur Taux, j'ai trouvé exactement tout l'alignement de planète, c'est-à-dire vraiment la boîte avec la taille que je voulais, l'impact que je voulais, les projets que je voulais. Et puis un champ des possibles absolument, absolument infini. Mais ça, je vais vous en parler parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps à répondre à votre question. Donc, je m'arrête là pour la prochaine.
Oui, mais justement, sur Meilleur Taux que vous rejoignez en 2017, vous devenez très rapidement le PDG de cette société. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours en son sein, les projets que vous y avez menés et comment vous êtes arrivé enfin, aussi vite à cette fonction de PDG?
C'est pas si vite que ça. Ça m'a pris 2 ans. Mais enfin, ce qui est clair, c'est que c'était pas prévu au départ. Ça, je veux dire, moi, j'ai rejoint Berto comme, enfin, j'allais dire de façon désintéressée, mais bon, c'est presque vrai, disons. Mais en disant, j'étais responsable des partenariats bancaires, donc c'est un poste qui est pas négligeable chez Berto. C'est un poste important, mais c'est pas patron de la boîte quand même. Et ensuite, bah, il s'est passé quelque chose qu'on peut appeler la chance, en fait, tout simplement. Il y a eu d'abord différentes reconfigurations, et à chaque fois, je pense que j'ai montré que je savais me saisir des occasions, voilà, me saisir des sujets et prendre des projets et les faire avancer. Et puis ensuite, il y a eu bah, carrément à peu près au moment où on a changé d'actionnaire, puisque l'entreprise a été rachetée par un gros fonds tech américain qui s'appelle Silver Lake, qui est en France actionnaire par une entreprise comme Miracle, puis qui est bah, aux États-Unis, surtout, enfin, surtout investi aux États-Unis dans des boîtes comme Expedia, comme Twitter, comme Airbnb. Donc c'est vraiment, ils ont été assez tôt dans des boîtes qui sont vraiment maintenant des géants de l'économie du web et de la tech. Et donc à ce moment-là, il y a eu une succession assez naturelle. Et Hervé, à ce moment-là, m'a proposé de prendre sa succession. Je n'ai pas hésité, ni réfléchi trop longtemps. Donc ça s'est fait, on va dire, en plusieurs étapes. D'abord, il fallait quand même prendre le risque de rejoindre l'entreprise. Au passage, d'ailleurs, en passant des marchés de dette chez BNP Paribas à responsable des partenaires bancaires chez Meilleur Taux, j'ai divisé ma rémunération par 3. Pour être très très concret, hein. Mais je savais que c'était la boîte dans laquelle je voulais être et que c'était là que j'aurais de l'impact. Parce qu'avant, je gagnais très bien ma vie. Et évidemment, c'était à Londres, c'était super, mais je savais qu'à un moment donné, je serais frustré du manque d'impact que j'avais. Et donc voilà, j'étais vraiment dans l'environnement dans lequel j'avais toujours souhaité et voulu être. Et ensuite, bah, dans cet environnement, comme je me suis épanoui, bah j'ai très vite fait beaucoup de choses, je me suis très vite occupé de beaucoup de sujets. Et je pense que quand Hervé, à un moment donné, a réfléchi à passer un peu le témoin, c'était assez naturel, en fait, parce que j'avais déjà pris dans l'organisation, en fait, beaucoup de place. Je m'occupais bien au-delà des sujets partenariat bancaire. Je pilotais tout le business d'assurance emprunteur. Je m'occupais de tous les projets, évidemment, digitaux. Je m'occupais de tout ça. Et donc, c'était assez naturel. Et puis, bon, bien sûr, il y avait aucun sujet d'âge avec Hervé, parce qu'on est de 2 générations différentes, même s'il est pas si vieux que ça, bien sûr. Hein, mais voilà, on a 15 ans d'écart, donc il y avait pas de sujet générationnel. Donc voilà, ça s'est fait vraiment de cette façon. Il y a toujours dans la vie une combinaison de choix, d'ailleurs parfois de choix rétroactifs. C'est-à-dire on a l'impression de ne pas choisir, et en fait on choisit, on se rend compte après qu'on avait plusieurs possibilités, qu'on a choisi, et puis un peu de chance, un peu de concours de circonstances. Bah, voilà, mon parcours chez Meurtou illustre l'un et l'autre.
D'accord, merci beaucoup. Donc, comme on vient de l'entendre, ce parcours brillant nous a permis très jeune d'accéder à de hautes responsabilités dans le public comme dans le privé. Donc, vous en avez déjà un petit peu parlé pour le public, mais quel regard portez-vous sur l'accès si jeune à des fonctions si importantes dans ces deux domaines?
Alors, je pense que moi, il y a un truc, vraiment un message que je veux faire passer. Bon, d'abord, je suis de moins en moins jeune, mais bon, c'est vrai que quand on fait des réunions, il y a bah, souvent des présidents, des directeurs généraux qui ont plutôt, on va dire, la cinquantaine. Et moi, je l'étais à 42 ans. Je pense qu'il ne faut jamais accepter qu'on vous dise vous êtes trop jeune pour quelque chose. Et d'ailleurs, vous voyez, quand j'étais chez BNP Paribas, à un moment donné, je regardais un petit peu différents postes, différents débouchés, etc. Et souvent, cette phrase revenait. Je disais, mais on me disait, ça pourrait être ça, peut-être ton poste. Et moi, je voyais le cran du dessus ou le cran encore au-dessus. Et on me disait, mais t'en fais pas, t'as le temps, t'es jeune, t'as 40 ans, tout va bien, ça, c'est dans 5 ans ou dans 10 ans. Bon, à l'époque, je le croyais un peu. Eh ben, il ne faut pas le croire du tout. Il ne faut pas le croire du tout. Les gens qui vous disent, vous êtes trop jeune pour ci, trop jeune pour ça, il ne faut jamais les écouter. Jamais, jamais les écouter. On n'est jamais trop jeune pour ça. Et d'ailleurs, au moment, vous voyez, au moment où j'avais ces discussions chez BNP, qui à la fin, bah, n'ont pas, enfin, au fait que je me suis dit, non, il faut que j'aille vraiment chez Meurtheau, c'était à peu près le moment où est arrivé un ministre de l'économie de quelques semaines plus jeune que moi, qui ensuite est devenu président de la République. Et donc, je me suis dit, mais attendez. Moi, on me dit que je suis trop jeune, et Macron, il a le même âge que moi, quoi. Donc, on va arrêter de me dire que je suis trop jeune. Donc arriver jeune n'est en fait pas un truc qui doit être atypique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, je vois autour de moi énormément de gens qui, à 35 ans, même encore avant, parfois ont tout à fait la capacité de diriger 1 000 personnes. Et donc, n'écoutez jamais ou n'acceptez jamais quelqu'un qui vous dit vous êtes trop jeune pour ça. Alors après, il peut y avoir d'autres cases qu'on ne remplit pas. On peut ne pas avoir les épaules pour un poste, ne pas avoir la vision, le drive. Mais ça, c'est d'autres sujets. Mais l'âge n'est jamais en soi une raison. Et vous connaissez la fameuse formule aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est tout à fait exact. Je pense que beaucoup des gens qui écouteront votre podcast peut-être se sentiront, on va dire la colonne vertébrale de diriger très vite beaucoup de gens, et ben qu'ils le fassent. Et n'écoutons surtout pas les gens qui nous disent vous êtes trop jeune pour ceci. Et évidemment, encore moins les gens qui vous disent vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, il vous manque telle légitimité. C'est souvent les conseils qu'on vous donne, notamment qui tournent beaucoup autour de l'expérience terrain, l'expérience opérationnelle, il te manque ceci, ou alors il faut que tu te crées une crédibilité terrain. Alors évidemment, c'est vrai, c'est bien sûr quelqu'un, par exemple dans le commerce, c'est sûr qu'encadrer des équipes commerciales quand on n'a soi-même jamais rien vendu de sa vie, c'est quand même un peu délicat. Mais par contre, expliquer qu'on ne peut pas diriger des entreprises parce qu'on n'a pas occupé tous les postes de l'entreprise et qu'on n'a pas fait 25 ans au guichet d'accueil, c'est complètement faux, complètement faux. Vous voyez, pour reprendre encore des exemples chez BNP, des gens extrêmement éminents chez BNP m'expliquaient que la seule façon que j'avais d'être crédible dans cette organisation, c'est d'aller dans une agence et de faire pendant plusieurs années, voire dans leur esprit, c'était entre 5 et 7 ans, de passer 5 ou 7 ans au guichet d'une agence bancaire. Et j'ai évidemment aucun mépris pour ce travail qui est très utile. Et moi-même, j'ai tellement, d'ailleurs, je pense qu'en tant que client, on a tous constaté que parfois, cette fonction-là, elle était laissée à l'abandon, elle n'était pas du tout bien travaillée, bien mesurée, et ça donne une expérience déplorable de la banque. Donc, c'est un poste extrêmement important. Mais pour autant, je pense que les gens qui me disaient qu'il fallait que je fasse ça plusieurs années pour être crédible, et parce qu'il me manquait je ne sais quelle expérience terrain, eux-mêmes ne l'avaient jamais fait, et eux-mêmes n'auraient jamais accepté qu'on le leur dise. Et donc cet argument-là, il te manque 5 ans passés sur tel poste, c'est un argument qui est souvent très, très intéressé avec une arrière-pensée, et ben, c'est pareil, il ne faut pas l'écouter. Je pense que dans beaucoup de postes, en fait, ce qui compte, et particulièrement quand on dirige une entreprise, il faut évidemment savoir de quoi on parle, c'est important, mais surtout, les gens en fait, en face de vous, par définition, ils le savent mieux que vous, comment ça se passe au guichet d'une agence. Par contre, peut-être que vous pouvez leur apporter, c'est autre chose, c'est la vision. Et la vision, alors évidemment, elle se nourrit de plein de choses. La vision, elle se nourrit d'une expérience que vous avez, elle se nourrit aussi des rencontres, elle se nourrit des choses qu'on peut lire. Mais ça n'est pas vrai qu'on peut avoir une vision pour l'entreprise uniquement si on a passé plusieurs années dans chacun des postes très, très modestes. Il faut, au contraire, se dire que dès qu'on a une vision, on est mûr pour diriger des gens et il ne faut vraiment pas laisser passer l'occasion qu'on a de le faire. Voilà. Donc c'est ça, la question de l'âge n'est pas une question, en fait.
D'accord, merci beaucoup pour ce conseil qui sera sans doute très bénéfique aux étudiants qui vous écoutent. Et pour revenir sur Meilleur Taux, donc la société que vous dirigez, les dirigeants sont connus pour leur volonté de recourir aux dernières innovations de l'IA, de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous exposer un peu cette marketplace, ces innovations et sa stratégie de différenciation dans le domaine de la fintech?
Alors, il y a beaucoup de sujets dans cette question. La notion de marketplace, fondamentalement, elle renvoie à trois choses très importantes et qui sont en fait notre métier. Notre métier, c'est quoi? C'est d'abord de l'information. Donc, dans la marketplace, on va sur une marketplace parce qu'on y trouve de l'information. C'est-à-dire qu'on est, nous, un acteur qui distribue de l'information. Ça prend différentes formes. Il y a tous les contenus sur nos sites, il y a tous les outils, il y a toutes les newsletters. Nous avons dans le groupe la première newsletter financière en France, qui est la newsletter écrite tous les matins par Marc Fiorentino, à laquelle j'espère que vos auditeurs sont tous abonnés, parce que c'est une source inépuisable d'informations. Et comme je le disais il y a un instant, avec un œil vraiment international. Et ça fait vraiment, vraiment du bien d'entendre parler des États-Unis, du Japon, de la Chine et d'avoir une vraie vision globale de tous ces sujets, sans parler bien sûr de l'Ukraine et de la Russie qui nous occupent beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc la mission de l'information, elle est essentielle. La deuxième chose qu'on veut trouver, c'est de la comparaison. C'est une offre large, la capacité à comparer. Et troisièmement, c'est l'accompagnement, c'est le service autour du conseil. Et donc informer, comparer, accompagner, c'est ça nos missions. Alors après, pour faire ça, il y a évidemment beaucoup de tech, il y a de la tech partout, à tous les carrefours, tout est tech en fait, tout est humain et tech à la fois. humain, parce que nos conseillers doivent être évidemment très bien formés, très compétents. Mais la tech, elle se glisse dans, on va dire, au moins d'abord tout le parcours client. L'UX est un sujet dans lequel il faut en permanence remettre en cause ce qu'on fait, en permanence se dire on peut l'améliorer. Et l'UX, ce n'est pas que le design. L'UX, ce n'est pas que l'apparence d'une page web. Est-ce qu'on met le bouton à droite ou à gauche? Est-ce qu'il est vert? Est-ce qu'il est bleu? La police de caractère. L'UX, c'est l'ensemble d'un parcours client dans lequel il y a forcément toujours des irritants, il y a forcément toujours des choses que les clients comprennent moins bien, des choses où on n'est pas bon parce qu'on doit les faire passer d'une étape à l'autre et on ne s'y prend pas bien. Et donc ça, le point qui est essentiel, c'est toujours se dire qu'on peut faire mieux. On n'a jamais fini de s'améliorer sur l'UX. Autre point très important sur l'UX, qui est vraiment une discipline, je dirais même une hygiène qu'il faut avoir. Il faut tout mesurer. Il faut tout mesurer parce que comme on n'a jamais fini, par définition, on y travaille tout le temps. Et donc, si on y travaille tout le temps, ça veut dire qu'il faut choisir les bons sujets. Il faut mesurer l'impact qu'on a et être sûr qu'on est sur les sujets qui ont vraiment de l'impact. Si on ne le fait pas, on perd un peu d'argent parfois. Mais surtout, on perd quelque chose qui est beaucoup plus grave que de perdre de l'argent. On perd du temps. On perd du temps. Donc, avoir l'obsession de la mesure. Donc, le deuxième sujet où il y a énormément de tech chez nous, c'est la donnée, c'est la data. Nous sommes une entreprise qui collecte énormément de données et puis des données extrêmement qualitatives, poussées. Par exemple, quand on fait un dossier de crédit pour nos clients, on sait en gros tout de leur vie. Et ces données nous donnent évidemment la capacité à profiler nos clients, être encore plus efficaces pour les aider, avec toujours cette vision que dans notre métier, nous devons être en permanence du côté de notre client, ce qui est au fond un peu derrière la promesse meilleur taux. Il y a, je vous ai dit, les trois missions dont j'ai parlé, informer, comparer, accompagner. Mais il y a plus fondamentalement, je dirais, dans les tripes des gens. Moi, je fais d'ailleurs toujours un peu cette question-là en entretien d'embauche. Je passe beaucoup de temps à recruter des gens. C'est au fond de vous, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut changer la façon dont on accède aux produits et services financiers en France et que le fait que tout soit basé sur des petits caractères en bas de page, le fait que tout soit basé sur des prélèvements pour frais de découvert en fin de mois et auxquels vous ne pouvez pas vous opposer, le fait que tout soit basé sur des produits qui sont liés ensemble et que vous ne pouvez pas vraiment choisir, que tout ça, d'une certaine manière, vous scandalise. Est-ce que vous ressentez un peu cette révolte au fond de vous? Si vous ressentez un peu ça, vous voulez changer les choses, amener de la transparence, amener de la capacité à choisir, vous êtes fait pour bosser pour nous. Et donc, la data, on la met au service de ça. La donnée nous aide vraiment à dire, on va regarder dans vos comptes, on va d'ailleurs très bientôt lancer une nouvelle version de notre app mobile qui aura ce service-là. Et l'open banking, l'accès aux données bancaires nous permet de faire ça. On va regarder dans vos comptes tout ce qu'on peut optimiser et on va le faire pour vous. Et au fond, je dirais même, il y a presque un slogan de vie derrière, parce que vous avez peut-être vu notre signature de marque, c'est « Reprenez le pouvoir ». Alors évidemment, ça s'applique à nos métiers. On dit bien, nous sommes là pour rendre le pouvoir à notre client, au consommateur, le rendre libre. Et on est toujours plus libre qu'on ne croit. Et donc, on les aide à être libres. C'est très important. Mais derrière, il y a un message de vie, en fait. Reprenez le pouvoir, c'est un message de vie. Et on assume complètement presque le côté un peu politique de ce slogan. Vous voyez, on est dans un... Je parlais de la campagne présidentielle il y a un instant. Vous n'entendez que des hommes politiques partout, à droite, à gauche, au centre, absolument partout, qui vous disent que l'État va s'en occuper et donner des chèques aux gens. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas le faire. Il faut évidemment des transferts sociaux. Et moi-même, comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans ce secteur-là. Je m'occupais du plus gros système de transfert social en France, qui sont les retraites. Mais je pense que ça ne doit pas dévier vers une forme de culture où on explique que pour tout, il y a des chèques. Parce que la plupart de ces chèques, ils sont quand même sans provision. Et ce sont des systèmes dans lesquels on habitue les gens à ce que tous les risques soient couverts, soient pris en charge. Et c'est évidemment fictif parce qu'il y a quand même bien quelqu'un qui paye à la fin. Et donc derrière la promesse de marque de meilleur taux, il y a cet engagement un peu militant qui consiste à dire la bonne façon de rendre du pouvoir d'achat aux gens, c'est peut-être de les aider eux à arbitrer, à se battre, à éviter qu'on leur fasse acheter le produit dont ils n'ont pas besoin, qui n'est pas adapté à leur profil, se battre contre les frais qui ne sont pas justifiés. Et ça rend au moins autant d'argent au consommateur final que peut-être donner un chèque qui est tiré sur la dette de l'État. Et donc ça, c'est très, très important dans notre promesse de marque de vraiment faire des gens, des clients qui soient libres et qui aient totalement ce libre choix. C'est notre promesse de marque.
D'accord, merci beaucoup. On pourra revenir ensuite sur l'intérêt porté aux clients dans votre projet entrepreneurial. Mais tout d'abord, donc, on voit que vous engagez pour l'éducation financière et technologique, donc ce qu'on appelle couramment la fintech. Et pourquoi est-ce que la fintech est particulièrement indispensable dans le domaine du crédit, de l'assurance? Quels sont un petit peu les enjeux?
Alors, le secteur financier, c'est un secteur dans lequel il y a, on peut dire, en effet, un peu de secteurs, des acteurs qui sont des acteurs, on va dire, traditionnels, anciens, les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance. Et moi, je serais le dernier à avoir une vision caricaturale de ces acteurs, d'abord parce que j'ai travaillé quand même pendant pas mal d'années dans une de ces très grandes banques, et dont j'ai dit tout à l'heure que moi-même, je sentais que je n'avais pas beaucoup d'impact. Mais en réalité, si on prend un tout petit peu de distance, on voit quand même qu'à travers toutes les crises, qu'on a traversé au cours des 10 dernières années. On a traversé les subprimes, on a évidemment traversé plus récemment le Covid, l'Ukraine, etc. Tous ces acteurs ont fait preuve quand même globalement d'une extrême résilience, d'une sécurité. Vous voyez, il n'y a pas eu de fuite de données. On a eu aucune banque avec les données des clients sur le trottoir et aucune compagnie d'assurance non plus. Et donc elles amènent quand même de la sécurité. Forcément, quand on est dans ces entreprises, et particulièrement quand on est dirigeant de ces entreprises, il faut être, ça fait partie de la, j'allais dire, ça fait partie de la fiche de poste, il faut être un peu averse au risque. C'est obligatoire. Et donc, il ne faut pas leur en faire le reproche. Je pense qu'on est très content d'avoir des patrons de banque, d'avoir des patrons de compagnies d'assurance qui sont pas beaucoup, mais un petit peu averse au risque. Et il vaut évidemment mieux qu'ils soient plutôt risque adverse qu'un peu risk taker. Je pense qu'un patron de compagnie d'assurance qui n'est pas averse au risque, il faut probablement qu'il fasse un autre métier. Et donc, ce secteur-là amène vraiment beaucoup de stabilité, beaucoup de solidité. La contrepartie, bien sûr, c'est que quand on est un peu averse au risque, eh ben, on amène un peu moins d'innovation. Alors là aussi, n'ayons pas de vision caricaturale. Il y a beaucoup de ces acteurs qui innovent, qui font des choses très bien. Mais quand même, globalement, sans vouloir être caricatural, on a des acteurs qui amènent beaucoup de sécurité, donc un peu moins d'innovation. Et c'est normal. Eh bien, c'est très bien qu'il y ait un autre secteur qui soit peut-être un peu plus risk-taker et du coup un peu plus innovant. Et donc, nous, on essaye d'être plutôt ce deuxième acteur, même si, bien sûr, on a beaucoup de respect pour les grandes institutions financières. Je pense que c'est normal qu'il y ait ce secteur dual. C'est-à-dire, je ne pense pas que l'avenir des grandes banques et des grandes compagnies d'assurance soit de devenir des fintechs. Et je ne crois pas non plus que l'avenir des fintechs soit de devenir de grandes banques et de grandes compagnies d'assurance. Le fait qu'il y ait ce secteur dual, bah, ça permet en fait d'avoir un peu le meilleur des mondes partout. C'est-à-dire, on a de la sécurité, on a de la stabilité, et puis on a en même temps de l'innovation. En France, là aussi, pour quand même voir quand même des choses qui vont bien, le secteur fintech en France est un secteur qui, je trouve, atteint vraiment un très bon équilibre, avec des très grandes banques qui sont très fortes, et certaines sont même très fortes internationalement. BNP Paribas en fait évidemment partie. Des très grandes compagnies d'assurance, on a l'un des premiers réassureurs mondiaux, AXA est un des leaders mondiaux de l'assurance. Je pourrais citer bien sûr les autres secteurs financiers, tout ce qui est le post-marché, l'asset management. Nous avons des asset managers de premier rang mondial, Amundi en fait évidemment partie, mais il y en a d'autres. Donc on a ces grandes institutions financières et c'est une grande chance. Et nous avons aussi des fintechs de premier plan. Et sans parler de meilleurs taux, mais on sait que dans l'ouverture des comptes pour les pros, dans la gestion des paiements, dans beaucoup de domaines des fintechs, je ne parle même pas de la, on va dire des néo-fintechs avec les cryptos et tout ce secteur-là, nous avons en France, puis d'ailleurs en Europe, des acteurs qui ont vraiment réussi à amener des services nouveaux et à amener cette dose d'innovation au service des clients. Et donc, il ne faut pas avoir une vision caricaturale en disant, ah, si tout le monde était comme Conto, comme Alan, voilà, ça n'aurait pas de sens. C'est très bien qu'il y ait cette dualité de secteurs. Donc pour moi, le secteur des fintechs et le secteur des acteurs, on va dire, plus traditionnels, ils sont parfaitement complémentaires et c'est normal qu'il y ait les deux. Et d'ailleurs, on voit que souvent, ces acteurs innovants se développent de façon un peu autonome. Et puis, à un moment donné, ils se font racheter, à un moment donné, ils fusionnent parce que là, à ce moment-là, on va essayer d'intégrer l'innovation qu'ils apportent dans l'ADN d'acteurs plus gros. Et donc, ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Il est assez probable que l'innovation amenée par ces acteurs n'aurait pas pu germer naturellement dans une grande banque. Donc, elle germe à l'extérieur, puis à un moment donné, elle rejoint l'écosystème. Et donc, cette complémentarité entre les institutions traditionnelles et les secteurs des fintechs me semble une vraie force. Et en France, on a la chance d'avoir de très bons acteurs traditionnels et de très bonnes fintechs. Il faut vraiment que ça continue comme ça.
D'accord, merci beaucoup. Mais pourtant, on voit pour meilleur taux que cette importance de la fintech dans le projet de la société ne se fait pas au détriment des clients et de leurs besoins, puisque les clients représentent pour vous, vous le rappelez souvent, une absolue priorité. Et en quoi donc est-ce que les clients sont au cœur de votre projet entrepreneurial?
Alors, la marque Meilleur Taux, sa promesse dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment, comme je l'ai dit, une promesse d'émancipation, de liberté, de capacité à donner un vrai libre choix à nos clients. C'est ça, que véhicule notre marque. Et on ne s'est pas dit à un moment donné, d'ailleurs moi j'ai rejoint l'entreprise bien après sa création, hein, mais on ne s'est pas dit, ah ça c'est super parce qu'il y a un marché, etc. Je redis, comme j'ai dit tout à l'heure, que quand même fondamentalement, ce que tous les gens qui sont dans cette entreprise croient, c'est que cette promesse client, elle renvoie d'abord à une conviction, elle renvoie d'abord à presque une vision un peu morale des choses, qui est de dire, ouais, c'est très utile qu'il y ait un acteur en France, et probablement d'ailleurs dans d'autres pays, qui amène ce rôle-là, qui amène cette information, cette capacité à comparer et ce conseil objectif. Et donc, on a d'abord et avant tout, je dirais, une vision morale des choses avant d'avoir une vision économique des choses. Et donc, le service qu'on rend, il est naturellement tourné vers le client parce qu'il s'appuie sur une conviction qui est qu'il faut faire ça parce que c'est bien et c'est utile. Ensuite, alors, comment on met le client au centre de tout ce qu'on fait? Moi, j'aime bien dire aux équipes que dans tout ce qu'on fait, dans tous les métiers dans lesquels nous sommes, donc nous sommes dans le crédit, dans l'assurance, nous sommes dans le placement, la personne qui doit toujours gagner beaucoup plus d'argent que nous, c'est le client. Il faut toujours, dans tout ce qu'on fait, faire en sorte que la personne qui gagne le plus, à court, moyen, long terme, c'est toujours notre client. Nous avons, au fond, le garde-fou absolu pour ça, qui nous empêchera de faire des bêtises et d'avoir une vision court terme ou d'utiliser notre base de clientèle de mauvaise façon, c'est justement la valeur de notre marque. Le fait que nous ayons une marque qui a un intitulé assez sympathique, et on aime bien se comparer avec Le Bon Coin, ouais, qui est une boîte qui parfois a fait un peu comme ça se gosser des gens dans l'écosystème. Finalement, on sait que c'est un acteur énorme, incontournable et qui illustre vraiment un nouvel usage. Nous, on est un peu l'équivalent dans le secteur financier, une boîte avec un intitulé, on va dire, bien de chez nous, assez terre à terre, mais qui, au fond, véhicule, je pense, dans l'esprit des gens, beaucoup de sympathie, beaucoup de chaleur. Et ben, cet actif-là, nous en sommes tous, même pas les détenteurs, mais les usufruitiers. Et donc, on doit évidemment le faire prospérer, faire en sorte que cette marque reste avec ce même niveau de sympathie. Et donc, quand on réfléchit à de nouveaux projets, quand on réfléchit à de nouveaux métiers, on se dit toujours, OK, mais est-ce que la valeur de la marque, est-ce que le côté militant engagé, que moi j'ai renforcé, hein, vous voyez, la signature de marque reprenait le pouvoir, ce n'était pas celle qu'on avait avant, mais moi c'est vraiment celle que j'ai voulu, donc ça fait quelques mois à peine, hein, qu'on l'a, eh bien, moi j'ai renforcé ce côté engagé, un peu militant de la marque, et je pense que c'est ça qui fait que les clients nous reconnaissent. Donc on doit toujours être conforme à ça, on ne doit jamais renier cette promesse. Un exemple pour illustrer ça, en épargne, nous distribuons des contrats d'assurance vie sans frais à l'entrée. On sait que les acteurs traditionnels distribuent des contrats d'assurance vie avec beaucoup de frais à l'entrée. Et très franchement, si on prenait des frais à l'entrée, alors peut-être qu'on dégraderait à long terme la confiance que les gens ont en nous, mais ça prendrait du temps. Et dans un premier temps, on gagnerait vraiment beaucoup plus d'argent. Eh ben, on ne va quand même pas le faire. On ne fera jamais de contrat d'assurance vie avec frais à l'entrée parce que la vision très long terme de la confiance que les gens ont dans notre marque, c'est avant tout notre boussole. Alors, ensuite, pour continuer de répondre à votre question, quelle place a le client? Alors là, il y a plein de modalités techniques. Le calcul du NPS, moi, je vois passer par exemple toutes les réclamations des clients. On fait en sorte que la voix du client soit présente dans absolument tout ce qu'on fait. On ne va pas, comme Jeff Bezos, jusqu'à laisser une chaise vide dans les réunions, mais dans l'esprit, c'est quand même vraiment très important. Quand je parlais il y a un instant de l'obsession de la mesure, c'est une autre façon de dire la même chose. Quand vous mesurez tout ce que vous faites, c'est que vous vous posez toujours la question de savoir si ce que vous faites a vraiment de l'impact sur le client final. C'est très facile pour une organisation de glisser vers une pente où en fait, elle pense d'abord à elle. En fait, si vous arrêtez de mesurer, au bout d'un moment, vous vous dites, vous ne faites plus que des choses pour rendre votre vie à vous plus simple. Et en vous disant, OK, mais quel impact ça a sur les gens qui convertissent, les gens qui vont au bout des parcours, les gens qui font appel à nous? Là, c'est une façon de remettre peut-être sous un mode un peu quanti, un peu abstrait, mais réel quand même, la voix du client au cœur de tout ce que vous faites. Et donc ça, c'est très important pour nous.
Merci beaucoup pour ce dialogue extrêmement complet et instructif. Et une dernière question peut-être pour terminer. Votre parcours inspirera sans doute des élèves d'HEC qui se préparent pour beaucoup à occuper des postes à haute responsabilité dans l'entreprise. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux probables futurs entrepreneurs, aux futurs PDG qui nous écoutent?
J'en ai donné quelques-uns. Alors, d'abord, vous êtes bien aimable de parler de mon parcours parce que moi, je reste très, très modeste. Vous voyez, l'entreprise que je dirige aujourd'hui a été créée par quelqu'un d'autre que moi, un vrai entrepreneur visionnaire. J'ai eu un prédécesseur qui lui a fait faire un chemin exceptionnel. Donc, moi, j'ai encore surtout beaucoup à prouver. Donc, je dirais peut-être premier conseil, restez humble, vraiment l'humilité. Ce qui ne veut pas dire manquer d'ambition. L'ambition et l'humilité ne sont absolument pas contradictoires. On peut avoir énormément d'ambition et énormément d'humilité. Donc, gardez toujours cette humilité. Et cette humilité, elle doit se traduire par plusieurs choses. Il faut écouter les gens, ce qui ne veut pas dire suivre ce qu'ils vous disent. Souvent, on confond ça. On dit, ben, vous n'écoutez pas parce que on vous dit, vous n'écoutez pas parce qu'en fait, vous ne faites pas ce que les gens vous disent. Mais vous les écoutez, et puis parfois, vous ne faites pas ce qu'ils vous disent parce que vous avez une conviction très forte. Mais il faut quand même les écouter. Il faut toujours lire. Par exemple, moi, j'ai une lecture qui est pareil, une hygiène, je lis des échos tout le temps, tous les jours. C'est une source inépuisable. On ne sait pas tout. On n'a jamais assez d'informations. Et avoir toujours une vision globale. Moi, je dirais, voilà, humilité. Avoir toujours une vision, l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas, quand vous êtes patron, ce n'est pas aux autres de vous indiquer le cap. Le capitaine d'un navire dans la tempête, il ne monte pas pour demander aux passagers ce qu'il doit faire. Il doit prendre la barre, il doit emmener le bateau et le ramener à bon port. Donc, avoir une vision long terme. Et cette vision long terme ne doit jamais être un alibi pour ne pas rechercher d'impact à court terme. Parce que, en général, le meilleur signe que quelque chose aura d'impact à long terme, c'est qu'il a de l'impact à court terme. Et puis, dernier conseil qui me semble très important, même si vous devenez patron très jeune, eh ben, la vie est très courte. Donc, faites-vous plaisir. N'écoutez jamais quelqu'un qui vous dira, ah, tu sais, ce que tu fais, c'est peut-être casse-pied comme job, mais tu rends vraiment service. Ça, c'est vraiment, si quelqu'un vous dit ça, il faut vraiment fuir. Il faut que le job que vous faites, il vous fasse plaisir tout de suite. Et pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, tout de suite. Ça, c'est très important. Ne passez jamais, alors on peut pendant 2, 3 semaines peut-être ronger un peu son frein, mais ne passez jamais 1 an ou 2 ans dans un job en vous disant, c'est un mauvais moment à passer, mais ça me sera utile plus tard. Ça n'existe pas.
D'accord, merci beaucoup pour toutes ces réponses extrêmement intéressantes. Et merci Guillaume Autier d'avoir accepté de venir témoigner pour HEC et pour sans doute d'autres auditeurs de votre parcours.
Merci Anne, merci à tous.